tous, vous êtes sur Aligre FM, bienvenue à l'émission Lusitania sur Aligre FM 93.1. Aujourd'hui, 14 décembre, jour d'hiver à Paris, nous recevons Nicolas Barral, dessinateur de BD et auteur du livre L'an tranquille, Monsieur Pessoa, édité chez Dargo. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre studio. Bienvenue Nicolas.
Merci, bonsoir.
C'est la deuxième fois que nous recevons Nicolas, puisqu'il est l'auteur aussi d'un autre album de BD disponible sur notre podcast, Sur un air de fado, sorti en 2021. Mais aujourd'hui, nous allons connaître plus sur ce monsieur Pessoa, L'an tranquille, et plus de son œuvre, et surtout de ses hétéronymes. L'an tranquille, Monsieur Pessoa raconte les derniers jours de Fernando Pessoa, le grand poète portugais disparu le 30 novembre de 1935, et le cheminement d'un jeune pigiste, Simão Cerdeira, un personnage créé pour ce livre, chargé d'écrire sur Pessoa. L'enquête mène sur l'enfance du poète, les années en Afrique du Sud, le retour à Lisbonne, et illustre aussi la relation de Pessoa avec ses hétéronymes, ses références familiales, son amour Ophélia. Mais l'action du livre va surtout se concentrer sur ses derniers jours. Et nous allons apprendre plusieurs détails de l'intranquillité et de sa complexité. Je remercie encore une fois Nicolas d'être ici avec nous. Ma première question est assez naturelle. C'est comment avez-vous l'idée d'écrire ce livre ?
Alors, ma femme est d'origine portugaise, figurez-vous. Et donc, dans le trousseau de mariage, il y avait un certain nombre de livres. Et parmi lesquels, il y avait un livre d'Antonio Tabucchi, qui est italien, qui avait écrit un livre qui s'intitule « Une malle pleine de gens ». Qui est un essai sur Fernando Pessoa. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. Il m'a marqué au point que j'ai accumulé au fil du temps de la documentation sur Pessoa, me disant qu'un jour peut-être j'en ferai un livre. Et le déclic a eu lieu à Lisbonne, à la librairie Bertrand, où je suis tombé nez à nez avec Pessoa, qui était en couverture d'un livre intitulé « Pessoa, image d'une vie ». Et le regard de Pessoa sur la couverture m'a troublé. J'y ai vu une mélancolie qui m'a semblé familière. Et donc j'ai eu envie de creuser, j'ai eu envie de voir ce qui pouvait bien me rapprocher de Pessoa.
Et ça, c'était quand ?
Ça, c'était, je dirais, il y a une petite dizaine d'années. Et après, le processus d'écriture, c'est un processus lent, en tout cas chez moi, il l'est. Et puis j'avais d'autres livres à faire. Donc il a fallu pour moi dégager le temps nécessaire pour me mettre à l'écriture. Voilà, et cette mélancolie dont je parle, enfin cette intranquillité, finalement, probablement, on peut probablement parler de ça. C'est quelque chose que je peux voir aussi sur certaines photos prises de moi. Des photos de famille, par exemple, des photos de repas où voilà, il y a de l'ambiance, tout le monde rigole. Et j'ai moi-même le souvenir, en fait, d'avoir été dans l'ambiance. Mais la photo me prouve le contraire, me prouve que j'étais là sans être vraiment là. Et c'est ça qui m'a troublé, en fait, sur la photo de Pessoa.
C'est très intéressant parce que Pessoa, pour les Portugais, c'est une référence, mais on le dit que c'est le poète avec le plus d'impact international. C'est mon expérience ici en France, c'est que c'est un poète qui est complètement adopté par les Français. Et je trouve très, très intéressant que vous vous reconnaissiez dans ce regard mélancolique, réservé peut-être.
Oui, je ne sais pas trop dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la culture n'a pas de frontières. Et d'ailleurs, elle n'en avait pas dans l'esprit de Pessoa. Hein, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à se démultiplier, à se créer des personnages, les fameux hétéronymes. Mais cette envie, ce dépassement de soi, en fait, il l'avait théorisé au plan politique aussi. Il avait une vision du Portugal comme d'un moteur pour... Enfin, il avait une vision cosmopolite et il voulait, c'était d'une certaine manière un précurseur de l'Europe.
C'est très intéressant, on va en parler tout à l'heure, puisque Pessoa il est associé au mouvement de Orfeo, c'est le mouvement littéraire associé au modernisme qui justement casse avec beaucoup de codes qu'il y avait au Portugal et aussi réclame cette envie de modernité et d'un progrès qu'en Europe continentale, on va dire comme ça, on expérimentait déjà.
Oui, donc, c'est ça. C'est la version portugaise, effectivement, du modernisme italien ou français. Enfin, oui, bien sûr.
Absolument.
Sa version française aussi, oui.
Et dans cet album, il y a donc, le cheminement de Simão Cerdeira, le personnage, le journaliste que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a Pessoa et ses hétéronymes. Il y a d'autres personnages aussi. Mais nous avons aussi un portrait de Lisbonne, de ses couleurs, de ses places, de ses rues. Et nous avons aussi quelques références historiques à ce moment-là, à cette époque-là, des années 30, justement, enfin, du modernisme à la version portugaise. Donc, on sent, en lisant l'album, que la période de recherche a été très soignée, que vous avez pris le temps de non seulement voir les espaces où Pessoa passer le temps, mais aussi de comprendre quelles étaient les dynamiques culturelles, littéraires, intellectuelles dans lesquelles il était baigné. Comment ça a été ce processus de recherche ?
Ça a été passionnant. Quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, je ne savais pas vraiment quoi en attendre. Je me suis rendu compte, en fait... C'est mon deuxième livre. Hein. Je me suis rendu compte que sur un air de fado, le précédent livre m'avait aidé à comprendre la dictature, en fait. Mm-hmm. Il m'avait fallu faire un livre, finalement, pour mesurer tous les enjeux de la dictature. Et je pense que j'ai fait un livre sur Pessoa pour comprendre Pessoa, en fait. Voilà. Et donc, j'ai avancé pas à pas. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de mettre en scène ce personnage de journaliste, qui est un peu mon double. Alors j'avais quelques coups d'avance sur lui quand même, hein. mais effectivement je me voyais en fait progresser à la manière d'un enquêteur, et donc c'est cet angle-là que j'ai choisi pour raconter cette histoire, qui n'est pas véritablement une biographie, mm-hmm. qui est plus une enquête mm-hmm. sur Pessoa, qui il était, ce que c'était que les hétéronymes. Donc on a ce journaliste qui réunit un certain nombre de témoignages, il doit rédiger une nécrologie, et il prend la chose très au sérieux. Il appartient à ces personnes qui, finalement, connaissent mal Pessoa. Hein, Pessoa, on a l'image de quelqu'un qui a été connu surtout après sa mort, mais en fait, il était quand même connu du milieu littéraire de son temps. Mais il était tout à fait possible de passer à côté de lui, parce que le milieu littéraire, c'est toujours un milieu assez fermé. Et même s'il avait aussi effectivement écrit quelques textes, dans les journaux, quelques textes un peu politiques. Mais... Et donc voilà, mon personnage, c'est un Candide, comme je l'étais moi, finalement, au départ. Et voilà, et donc il avance au fur et à mesure dans sa découverte de Pessoa. Et en parallèle, on voit Pessoa vivre les derniers jours de sa vie, essayer de mettre en ordre ses affaires, et surtout essayer de terminer le livre de l'intranquillité. Voilà. Donc c'est une espèce de vision kaléidoscopique que j'ai voulu mm-hmm. donner de Pessoa.
Je tiens à souligner que donc ce personnage du journaliste, il est un double de l'auteur Nicolas Barral, et ce personnage a aussi une ambition d'écrivain.
Oui. Et c'est un livre, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre... Moi, j'ai découvert... au fil de mes recherches, pourquoi j'avais envie de faire un livre sur Pessoa. Et en fait, la raison sous-jacente, c'est que je voulais essayer de comprendre pourquoi on écrit. Qui sont ces mystérieuses personnes qui passent leur temps à écrire ? Et quel est le fil qui relie les personnes qui écrivent aux personnes qui les lisent ? Mmh. Hein. Pessoa, d'ailleurs, alors la réponse, Pessoa l'a fournie d'ailleurs. Il a une assez belle formule, simple, mais qui dit tout, qui est la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas.
une ligne qu'on pourra lire dans le livre.
Oui.
De façon habillée, on va dire comme ça, pour donner l'envie aux lecteurs et aux auditeurs de le lire. Et ce processus de recherche, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit une fidélité aux espaces.
Oui.
J'imagine que vous avez parlé de Tabuki, qui est une spécialiste renommée, de renommée mondiale sur Pessoa, et sa femme est aussi une importante universitaire sur le domaine. J'imagine que vous avez eu aussi du contact avec d'autres références et peut-être d'autres, comment dire, d'autres moments un peu affectifs avec l'héritage de Pessoa.
Alors, au cours de mes recherches, j'ai découvert, par exemple, l'existence d'un barbier. Pessoa, effectivement, était un personnage qui vivait de manière assez recluse. Il vivait assez chichement. Hein. Il travaillait le temps nécessaire pour subvenir à ses besoins et le reste était consacré à l'écriture. Et il avait très peu de vie sociale, mais quand même, il avait un rendez-vous quotidien avec un barbier. Alors ce barbier, j'en ai trouvé trace effectivement dans mes lectures et ça m'a amusé de le mettre en scène. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Alors, je n'avais pas visité le musée Pessoa, mm-hmm. la Casa Pessoa, qui se trouve à Campo do Ourique, à Lisbonne. Et c'était bien, d'ailleurs, que je ne visite pas le musée avant de faire le livre. Je l'ai visité après. Mm-hmm. Alors, j'ai trouvé, effectivement, trace du barbier au musée. C'est même assez émouvant, parce qu'on a le matériel de barbier de Pessoa. Pessoa prenait l'habitude de se faire raser ou chez lui ou chez le barbier qui habitait vraiment en bas de chez lui et c'est ça qui est plaisant dans le travail préparatoire, c'est que on imagine des choses évidemment mais quand on tombe sur des anecdotes comme ça vraies, c'est encore mieux.
Bien sûr.
Voilà.
Il y a un autre personnage, vous venez d'évoquer le barbier, mais un autre personnage très important pour la culture portugaise, c'est António Ferro,
oui.
qui était lié à la bande d'Orfeu, comme Mário oui. Sacarneiro, Amado Negreiros. Et à un moment, il apparaît dans le livre, et c'est un personnage, c'est une personne très importante, parce qu'elle a eu des responsabilités politiques après coup,
oui.
Vraiment centrales. Et ce personnage, il nous raconte un peu cet esprit avant-gardiste que la bande avait.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette effervescence portugaise à l'époque?
C'est très enthousiasmant. Enfin, c'est toujours un peu par la jeunesse que les révolutions se produisent, hein. que ça soit au plan culturel ou au plan politique. Oui, le personnage de Ferro, c'est un personnage qui... il le dit d'ailleurs dans le livre. Cette idée du modernisme et de l'homme nouveau, en fait, mm-hmm. Cette espèce d'invention de l'homme moderne, a eu effectivement des résonances au plan politique et le Estado Novo mm-hmm. de Salazar, en fait, est une forme de prolongement. Un peu noir, un peu néfaste, mais qui était en germe, en fait, dans le mouvement moderniste. Et il y a des échos de ça en Italie, avec le fascisme.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc Ferro, effectivement, jeune, commence par écrire avec d'autres dans la revue Orfeo, effectivement. Et puis, à un moment donné, les chemins se séparent. Pessoa reste un écrivain. Et Ferro, peut-être parce que il n'estime pas avoir le talent suffisant, ou peut-être parce que voilà le hasard des rencontres l'ont fait bifurquer, lui est devenu effectivement le ministre de la culture et de la propagande de Salazar.
En effet, on ressent ce que vous venez de dire par rapport à cette envie d'un homme nouveau, même si c'est pas très progressiste, on l'apprend après coup. On le sent par exemple dans d'autres courants artistiques et techniques, comme l'architecture par exemple.
Bien sûr.
On le voit aussi, on le voit en Italie aussi, que pendant cette période, il y a eu des constructions absolument modernes que réclamait l'homme nouveau que
oui, c'est ça.
Que vous venez de dire. J'ai parlé tout à l'heure un peu de j'ai mentionné Mário Sá Carneiro. Mário Sá Carneiro est un poète et grand ami de Fernando Pessoa, qui est aussi décédé de façon
tragique
et jeune.
Oui, il avait 26 ans, je crois.
Oui, et lui, il était un homme tranquille aussi. Donc il a écrit beaucoup, il était tourmenté aussi à sa manière. Et ce que je propose à Nicolas et à nos auditeurs, c'est une chanson d'Adriana Calcagnotto, une chanteuse brésilienne qui a pas mal d'années, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, plus de 20 ans peut-être. Elle a présenté en musique un poème de Mário Sá Carneiro qui s'appelle « O Outro, O Outro ». Et ça donne ça.
Nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Eu não sou eu, nem ponte de tédio que vai de mim para o outro. Ai, 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 eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 et vous écoutez Lusitania, aujourd'hui avec Nicolas Barral, l'auteur d'Un tranquille Monsieur Pessoa. Un album de BD sur Fernando Pessoa, édité chez Dargo, que nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui. Nous venons d'écouter Adriana Calcagnotto avec sa version musicale d'un poème de Mário Sá Carneiro, qui s'appelle « O Outro, l'autre », que justement parle sur cette... différence entre le moi et l'autre qu'habite en lui. Et je pense que c'est tout à fait à voir avec l'exercice de création d'hétéronymes que Pessoa a fait tout au long de sa vie. Et les hétéronymes de Pessoa sont absolument incontournables dans son œuvre. Il y en a plusieurs, des plus connus, des moins connus. Et on voit quelques-uns ici illustrés dans l'album, avec leur propre personnalité, apparence physique, style vestimentaire. Et Nicolas, je voulais savoir comment avez-vous créé ces hétéronymes, sa représentation physique.
Mais en fait, Pessoa avait laissé des écrits sur les hétéronymes. Alors les hétéronymes, effectivement, c'était des personnages à part entière. Il est des écrivains qui prennent des pseudonymes pour écrire, pour se cacher finalement derrière un nom. Mais ça, lui, faisait plus que ça. Effectivement, il inventait des véritables personnages. Il était une forme de dramaturge, en fait, d'un théâtre littéraire dont il endossait tous les rôles. Et alors, il avait laissé des traces de biographies, de véritables biographies. Il avait même calculé les thèmes astro de ces hétéronymes. Et donc, je me suis basé sur les descriptions physiques. qu'il a laissé. Pour Bernardo Soares, alors on va les citer quand même, les quatre qui interviennent dans le livre. Il y a Alberto Cairo, Alvaro de Campos, Ricardo Reich et donc Bernardo Soares. Bernardo Soares étant considéré par Pessoa comme un semi-hétéronyme, c'est-à-dire un quasi-double, un quasi-jumeau. Là, j'ai dû faire un petit effort d'imagination parce que la description n'existait pas, mais comme il était proche de Pessoa, j'en ai fait un personnage finalement qui lui ressemble assez, je pense. Donc voilà comment j'ai procédé techniquement. Et c'était assez passionnant, en fait. Dans ce livre, je voulais essayer de montrer ce qu'était l'univers intérieur d'un écrivain. Et dans le cas de Pessoa, l'univers intérieur, il est formidable parce que c'est un vrai théâtre. Et donc, mettre en scène tous ces doubles venait spontanément à l'esprit. Et donc, j'ai essayé de permettre au lecteur de visualiser ce qu'étaient tous ces personnages qui l'habitaient.
Même les couleurs qu'on voit ici dans l'album.
Alors les couleurs, non, là j'ai dû faire un petit effort quand même d'imagination. Non, parce qu'il faut savoir qu'en 1935, la vie n'était pas en couleur, elle était en noir et blanc.
Bien sûr. Oui, en effet, on voit, j'ai l'album devant mes yeux, et on voit des scènes où Pessoa et les hétéronymes interagissent, juste, même avec un peu de conflit.
Oui. Les hétéronymes reprochent à Pessoa d'usurper leur identité. Voilà.
Donc vous êtes inspiré que sur les écrits de Pessoa pour le faire?
Oui. Oui, j'ai essayé de faire en sorte qu'il... Par exemple, Alvaro de Campos est décrit un peu comme un dandy. Donc j'en ai fait un personnage assez distingué, avec un monocle. Le monocle est présent effectivement dans la description. Et puis voilà, puis après on se laisse un peu aller, on n'a pas toujours il est parfois difficile de répondre à cette question. Les personnages viennent comme ça sous le crayon et on sait dire une fois qu'ils existent sur le papier qu'ils vont pouvoir faire partie du casting.
Bien sûr, et qu'ils vont jouer le rôle comme vous l'imaginez, comme l'auteur l'imagine. Il y a aussi un autre élément qu'on voit dans l'album, et d'ailleurs dans sa couverture, c'est les papillons.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet élément un peu mystérieux, je trouve, et sa présence dans le livre?
Alors, pour présenter Pessoa et le monde intérieur dont je parle, qui est un peu étrange, enfin, je voulais du mystère, en fait. Créer une forme d'inconfort pour le lecteur. Et donc, les papillons, dans un premier temps, ont été pour moi l'occasion de mettre en scène... une part de fantastique. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, pourquoi quand Pessoa referme la malle, les Pessoa vont comme ça très tranquillement se lever dans la malle parmi les textes. Donc voilà, il y avait cette part de mystère que je voulais créer. Et puis Pessoa a parlé des papillons dans son œuvre. Il y a un assez beau passage, je vais essayer de m'en souvenir, qui dit « Mon destin est peut-être de toute éternité d'être comptable, et la littérature et la poésie ne sont peut-être qu'un papillon venant se poser sur mon front et qui me rend d'autant plus ridicule que sa beauté est plus éclatante. »
C'est pour ça que vous avez dessiné un papillon sur le visage de Pessoa à la couverture.
Voilà.
Très, très bien expliqué. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert l'album, puisqu'il s'agit des derniers jours de Pessoa, j'associais plutôt le papillon à quelque chose de fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit fin de vie. Le
papillon est un éphémère, oui.
Oui, donc j'ai plutôt interprété cela comme une espèce d'annonce. D'un fin de vie.
Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Oui, bien sûr. C'est une explication qui vaut.
Certes, mais bon, il y en a plusieurs. C'est un papillon multi.
C'est aussi les papillons, pour ne rien vous cacher, puisqu'on est là pour se dire les choses. Bon. C'était aussi pour moi, préfigure l'entrée en scène des hétéronymes.
D'accord, comme symbole de quelque chose qui va apparaître. Voilà. Il y a aussi une autre idée que très forte et très connue de Pessoa, c'est la phrase qu'il laisse à la fin dans un papier dans son lit de décès, qui dit « Je ne sais pas ce que demain me réserve ».
Oui.
Ce que pour moi, c'était éternaliser l'intranquillité.
Oui, jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, on reste intranquille et au-delà, le bout.
Oui. J'ai beau avoir fait ce livre, je ne prétends pas détenir la vérité sur Pessoa. Et d'ailleurs, à travers Pessoa, c'est un peu de moi que je parle. Enfin, je sème aussi quelques petits cailloux me concernant. Cette intranquillité, c'est-à-dire cette espèce de présence, absence, enfin, c'est quelque chose. Qui peut être gênant pour l'entourage, par exemple. Moi, quand j'ai des enfants, je sais qu'ils... J'espère qu'ils n'ont pas eu trop à souffrir de ça, mais j'ai fait ce livre un peu pour leur expliquer comment fonctionne papa. Mmh. C'est-à-dire... Moi, je travaille chez moi, donc j'étais là, en principe, je me rendais disponible, mais j'avais toujours en tête... La page à faire, l'erreur à corriger, le dialogue à trouver. Et c'est ce besoin que j'ai eu de manière très précoce de me réfugier dans la fiction que je crois partager en fait avec Pessoa.
De se sentir habité par
Oui, alors il était d'ailleurs il avait un peu l'impression d'être drogué à l'écriture. Effectivement, il ne pouvait pas se passer d'écrire. Mais alors, moi, je suis dessinateur également. Et en fait, la question de savoir pourquoi on écrit peut se décliner pour le dessin. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait cette expérience dans un musée. Quand je suis en vacances, je culpabilise un peu de ne pas être au travail, alors j'achète des carnets de croquis, et puis je les traballe un peu partout. Et là, je me souviens que j'étais en famille, d'ailleurs, je visitais une exposition sur Giacometti, le sculpteur, et je m'amusais à dessiner les statuettes de Giacometti, personnage torturé, comme ça. Et je me suis arrêté devant un buste, comme ça, puis je dessine le socle. Et puis je me suis aperçu qu'en fait le socle faisait partie de l'œuvre. Le socle était partie intégrante de l'œuvre. Et je pense que si je n'avais pas dessiné, je serais passé à côté de ce détail. Donc le dessin me sert à comprendre aussi. Et je pense que quand on a des difficultés à vivre simplement l'instant présent, quand on éprouve le besoin de reformuler les choses, alors, effectivement, c'est peut-être une bonne définition de l'écrivain ou de l'artiste. C'est quelqu'un d'intranquille au sens où il éprouve le besoin de se rejouer le film, en fait. Pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les événements qui traversent sa vie. Et peut-être aussi pour réparer par l'écriture les choses qui doivent l'être.
Très intéressant. Ça explique aussi les papillons qui habitent l'auteur aussi.
Oui.
Ce besoin de traduire. Et vous croyez que vous l'interprétez comment? Je ne sais pas ce que demain me réserve. Ça vous angoisse ou ça vous rassure?
En fait, on peut y voir aussi une forme d'autodérision. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien ce qu'il attend. Il a abusé de la boisson. Son foie n'y a pas résisté. Alors effectivement, il y a un petit suspense sur le moment, sur le jour, mais en tout cas, au moment où il entre à l'hôpital Saint-Paul à Lisbonne, il sait très bien qu'il n'en ressortira pas vivant. Donc il y a une forme peut-être d'ultime note humoristique, en fait. Voilà, Il y a différentes manières d'interpréter cette phrase, mais sachant que Pessoa ne manquait pas d'humour, on peut supposer qu'il ait laissé comme ça une phrase pour que des gens comme nous y réfléchissent.
Il lui donne une ampleur existentielle que peut-être il n'a pas eue. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, Pessoa, je pense que déjà à l'époque, il était reconnu comme un écrivain très prolifique dans ce qu'il faisait, puisque les hétéronymes y sont preuves. Et d'ailleurs, Simão Cerdeira, le journaliste aussi protagoniste de cet album, a pour mission d'écrire la nécrologie de Pessoa, donc ça corrobore ce que vous venez de dire, on savait ce qui allait se passer. Et cette grandeur de l'artiste, de l'écrivain, je pense qu'elle a été aussi très reconnue par ses collègues, par ses camarades littéraires, notamment de Orfeo, vue comme une figure grande de la littérature, avec beaucoup de potentiel et une grandeur que, selon Almada Negreiros, va même au-delà le pays, le Portugal.
Oui. Allez-y.
Pardon. Et du coup, il y a cette ambition, cette aura, on va dire comme ça, autour de Pessoa, je trouve, même dans le livre, on le sent que tout le monde qui parle de lui, c'est comme un écrivain qui est très considéré, qui est très élevé et reconnu, même s'il était discret, timide, on va dire réservé.
Oui, mais il y a des êtres comme ça qu'on croise dans la vie qui rayonnent. On a tous fait cette expérience. Des êtres un peu à part, qui vous impressionnent. Je pense que Pessoa a été un génie. Enfin, c'est une expression qui est peut-être un peu galvaudée de nos jours, parce que tout le monde est un peu... tout le monde... Enfin, c'est un qualificatif qui se répand peut-être un peu trop, mais je pense que les gens qui l'ont croisé à l'époque probablement avaient le sentiment d'être en présence de quelqu'un à part. Et ça a continué bien après sa mort. On n'en a pas fini avec Pessoa, je pense. La malle qui a été retrouvée, que la famille d'ailleurs a mis du temps à céder... J'ai cru comprendre, enfin, au travers de mes lectures, que la sœur en particulier, qui était l'exécutrice testamentaire de son frère, rechignait à la publication de certains des textes, en particulier d'ailleurs du livre de l'intranquillité, qu'elle trouvait trop noir, dont elle trouvait qu'il donnait une image un peu trop sombre de son frère. Mais il y a plus de 27 000 textes, donc voilà. Donc effectivement, cette espèce de boulimie d'écriture est unique. Et le rayonnement au-delà des frontières lui aurait certainement plu, puisque c'était sa philosophie. Enfin, il considérait que le Portugal était trop petit pour lui, et que d'une certaine manière... Fernando Pessoa était trop petit pour lui aussi. Il se sentait à l'étroit à l'intérieur de Fernando Pessoa. D'ailleurs, c'est très étrange parce que de son vivant, il a publié en son nom propre un seul livre, Message. Mais même à propos de Message, il disait « Oui, c'est un livre de Fernando Pessoa lui-même. » C'est-à-dire qu'il avait quand même cette espèce de distance vis-à-vis de Pessoa, l'écrivain. Voilà, c'est assez passionnant. Mais l'idée qu'on puisse être plusieurs, moi, ça me plaît bien. Parce que je m'aperçois que c'est mon cas. Enfin, c'est très libérateur, cette idée qu'on peut se permettre d'être différent, de pas sans arrêt être en accord avec soi-même. C'est un soulagement.
Bien sûr, bien sûr. Et je reprends ce que vous venez de dire sur la grande taille de Pessoa par rapport au pays, le Portugal, où il a vécu, et même par rapport à sa propre personnalité, puisqu'on a créé beaucoup d'autres pour exprimer tout ce qu'il avait en lui. En 1945, José Almada Negreiros, donc aussi une figure très importante du modernisme et de la revue Orfeo, a écrit la Ode à Fernando Pessoa, qui est disponible en français dans l'anthologie de la poésie portugaise publiée par Chandaigne et traduite par Marx de Carvalho. Il est disponible en librairie. Et je vous propose de lire cette Ode à Fernando Pessoa écrite par Almada Negreiros, qui illustre exactement ce que Nicolas Barral vient de dire. Donc je lis Ode à Fernando Pessoa. Toi qui rêvas d'être la voix du Portugal, tu as vraiment été la voix du Portugal et tu n'as pas été toi-même. Tu fus vraiment, et non de fait, la voix du Portugal. Vraiment, oui, et c'est seulement de fait que tu n'as pas été toi-même. Le Portugal, la voix lui vient toujours après l'âge. Et toi, tu as voulu accorder sa voix à son âge. Et c'est là où tu t'es trompé, toi, non pas ta voix de Portugal, non pas l'âge qui était déjà d'aujourd'hui. Tu fus seulement ton rêve d'être la voix du Portugal, ton rêve de toi-même, ton rêve des Portugais, rêvé seulement par toi. Tu as rêvé la continuité du rêve portugais, la somme de tous les siècles du Portugal, la somme de tous les divers rêves portugais. Tu as rêvé le déchiffrement final du rêve du Portugal. Et la vie qui s'éveille après le rêve, la vie que le rêve avait prédite. Toi, qui as fait le rêve d'être la voix du Portugal, tu as vraiment été la voix du Portugal et tu n'as pas été toi-même. Tu as été remis à une autre fois de même que le Portugal. Tu as porté haut dans ton rêve le drapeau du Portugal, bien droit, sans pencher d'un côté ni de l'autre, ce qui n'est pas donné à tous les Portugais. Nul n'aura vu en toi, Fernando, que la personne qui porte un drapeau sans qu'aucune fête le justifie. Dans notre cher pays, où nul n'admire quiconque et où tout le monde en idolâtre quelques-uns, on a substitué au Portugal le nationalisme qui est une manière d'en finir avec les partis et qu'il ne reste peut-être que le parti du Portugal, mais non encore pour être le Portugal. Le Portugal, ce sera pour une fois, et les Portugais aussi, comme toi. Pour une autre fois, et les Portugais aussi, comme toi. Et donc là, Almada Negreiros, on parle beaucoup de Portugal, c'est vraiment une espèce de clé qui est toujours martelée, mais on voit cette idée que Pessoa le dépasse, et qu'on n'a pas vu.
Mais bien sûr, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Message, alors qui a reçu le prix de propagande d'ailleurs, en 1934, donc prix de propagande décerné par un ministre d'extrême droite. Hein. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui est sous-jacent dans Message, c'est l'idée d'un contre-récit. C'est-à-dire que l'Estado Novo, c'est la volonté d'un récit nationaliste, mais donc d'un pays, d'un Portugal, refermé sur lui-même, alors que dans Message, ce que Pessoa prédit, mm-hmm. effectivement, et en tout cas appelle de ses voeux, c'est un Portugal qui rayonne, c'est un Portugal qui n'a pas peur des autres pays. Et voilà. Et pour en revenir à cette idée de... Alors Pessoa, en fait, ça veut dire personne, mm-hmm. qui vient du latin persona, et en fait, qui signifie le masque. Donc Pessoa, effectivement, a passé sa vie à se revêtir d'un masque, de différents masques. Mais persona, c'est personare, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour parler plus fort. On met le masque pour parler plus fort. Et effectivement, se cacher derrière un masque permet peut-être, au fond, d'être plus juste, d'être plus vrai. Prendre un masque, c'est peut-être... Parler mieux de soi, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Je vous propose une autre pause musicale qui parle de rêve. Donc cette fois-ci, c'est avec Misia, une artiste disparue cette année à qui on va rendre hommage, déjà reçue aussi sur Aligre FM. Et elle a chanté en 1999 un poème de Pessoa, écrit en français, puisque Pessoa a écrit en anglais, en portugais et quelques poèmes en français. Et le poème s'appelle « Par rêve ». Donc je vous propose d'écouter Misia et son « Par rêve ». «
s'aime pas qui je suis. Quand le rêve est beau, le jour même sourit. Quand le rêve est beau, le jour même sourit. Quand le rêve est beau, le jour même sourit.
Vous êtes sur Allegre FM 93.1 et vous écoutez Lusitania. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Barral, le dessinateur et auteur du livre L'intranquille Monsieur Pessoa, que nous avons le plaisir de présenter. Et nous venons d'écouter Misia, qui chante un poème écrit par Pessoa qui s'appelle Par rêve. Je profite aussi pour partager avec nos auditeurs que Radio Libre, qui a bientôt 44 ans, à une collecte de dons sur la plateforme Hello Asso. Donc je vous invite à aller sur notre plateforme pour soutenir ce projet de liberté, de pluralité, d'engagement et d'amour par la culture et l'art. Nicolas, nous avons déjà beaucoup parlé de Pessoa, ses hétéronymes, de comment ce voyage ou cette enquête a aussi été une enquête de découverte personnelle et de traduction, on va dire, des choses qu'on a en nous. Mais je suis aussi très curieuse de savoir comment le livre lui-même a été produit. Les dessins, les couleurs. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dessins qui n'ont pas été sélectionnés, par exemple ?
Oui, quelques-uns. Quelques-uns. Il y a même eu une première mouture du scénario qui a été... jeté à la corbeille.
Carrément.
Non, mais c'est assez logique parce que c'est quand même un sujet délicat. Et alors, j'ai dessiné. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand j'écris mes propres histoires, je ne dessine pas tout à fait de la même manière que quand je dessine pour d'autres. Et puis, je suis allé sur place, j'ai pris des photos, je me suis beaucoup renseigné. Je suis allé, par exemple, au cimetière des plaisirs. Mm-hmm. Où se situe une des scènes centrales du livre. Et alors j'ai été émerveillé, c'est un très beau lieu, mais par contre ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ce n'est pas un lieu où les morts peuvent vraiment être en repos, parce que l'aéroport est juste derrière, et il y a beaucoup d'avions qui passent. Voilà, et sinon après, alors il y a la question de la couleur que vous avez abordée, alors ça c'est une chose que je fais à quatre mains avec ma fille Marie, qui avait déjà participé à l'élaboration sur un air de Fado. Alors ça c'était très très agréable, parce que on a un peu redéfini les contours de notre relation. Ça reste ma fille bien sûr, mais c'est devenu une collègue. et voilà, et ça a pris 2 ans en fait, mm-hmm. quand même, hein. Deux ans de plaisir et aussi un peu de souffrance. Oui, il y a quelques scènes qui sont... Pas forcément des... C'est-à-dire, en fait, la bande dessinée se rapproche un peu du cinéma. C'est-à-dire qu'on monte des scènes entre elles. Et donc, il peut y avoir des moments où on décide d'intervertir des scènes ou des strips. Parce que ça va être mieux, parce que ça va être plus dynamique, plus fluide. Il y a la recherche des personnages aussi qui est toujours un peu difficile parce qu'il faut, passer du fantasme de l'histoire. Parce que moi, j'écris vraiment d'abord le scénario complet avant de dessiner. Il y a des gens qui écrivent en dessinant ou qui dessinent en écrivant. Moi, je sépare les deux. Et donc, il y a toujours un moment de flottement où il faut arriver à trouver un équivalent graphique à tout ce qu'on a imaginé. Et alors là, ce que je fais, c'est qu'en général, je me base sur des acteurs, des comédiens. Voilà, par exemple, là, j'ai mis en scène Simon Serredeira sous les traits d'Adrian Brody.
Exactement. Et c'est, voilà. La ressemblance, je pense qu'elle est très juste.
Voilà, j'espère qu'il me pardonnera. Mais moi, ça m'a été très utile pour fixer les choses. Voilà comment ça se passe.
Et vous écrivez donc le texte d'abord ?
Tous les descriptifs.
Donc, voilà. Comme...
Les chapitres, enfin.
Oui, comme une histoire. Donc là, par exemple, quand on voit une page, comme là, je suis en page 93, où il n'y a pas de...
De dialogue.
De dialogue. Cette page-là, elle est...
C'est deux phrases. C'est deux phrases. Et puis après, il faut effectivement passer au dessin et rendre compréhensible
L'enchaînement de
exactement,
des
merci.
Scènes.
L'enchaînement, l'enchaînement des dessins.
Bien sûr.
C'est un art séquentiel, la bande dessinée, donc il faut effectivement choisir la bonne image pour passer à l'autre. Voilà, c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas, on finit par le faire assez naturellement.
Et est-ce que votre trait de dessin, est-ce que vous pensez comme une caméra
Alors, je suis très influencé par le cinéma, oui.
Parce qu'il
mais depuis toujours, la bande dessinée, effectivement... Enfin, la bande dessinée précède l'invention du cinéma, donc d'une certaine manière, la bande dessinée a existé sans le cinéma, mais évidemment, il y a un cousinage entre la bande dessinée et le cinéma. La bande dessinée étant un art hybride qui est emprunté aussi à la littérature.
Au niveau des couleurs, par rapport à l'autre livre sur un air de fado, je trouve que cette palette, elle est plus hivernale. Et je me suis dit que ça peut-être fait sens puisque le gros de l'action se passe au mois de novembre.
Il pleut à Lisbonne.
Oui, c'est pas que une ville ensoleillée.
Oui.
Donc elle a une palette plus hivernale que l'autre livre, j'ai trouvé. Mais il y a aussi un usage de la couleur et on le sent parce que le livre est organisé en chapitres. Mais au sein de chaque chapitre, parfois il y a des sections très précises avec une palette encore plus serrée.
Oui.
Donc la couleur, on l'aperçoit comme une espèce de...
On raconte aussi par la couleur. Là, en l'occurrence, si vous faites allusion au flashback, les personnages que le journaliste interroge se souviennent de moments qu'ils ont passés avec Pessoa. Donc là, j'ai décidé de teinter ces souvenirs d'une espèce de filtre bleu.
Oui.
Et c'est aussi pour aider le lecteur à se repérer, en fait. La structure de l'album est assez complexe, comme l'était Pessoa.
Oui.
Et on avance l'élaboration du portrait par petites touches successives. Il fallait que ces petites touches qui s'entrechoquent ne se mélangent pas et que le lecteur puisse s'y retrouver. Donc la couleur est une manière aussi de prendre le lecteur par la main.
Et Marie était toujours d'accord.
Il y a eu des discussions âpres parfois. Non, c'est pas vrai. Ça se passe très bien. Mais effectivement, pour ce qui est de ces décisions-là, je reprends un peu les commandes. Je m'occupe aussi de tout ce qui regarde la lumière, les ombres. Ça, ce sont des choses qui relèvent de la décision du dessinateur.
La lumière et les ombres, mais aussi, je tiens à dire, la fidélité à l'espace réel à Lisbonne. C'est une de vos caractéristiques, c'est de bien représenter les lieux qui servent de scénario.
Oui, je me suis rendu compte au fil du temps, je ne sais plus si c'est moi qui ai pensé à ça ou si c'est quelqu'un qui a posé cet adjectif, mais je pense que j'ai une approche finalement assez naturaliste des choses. J'aime bien le réel, j'aime bien essayer de traduire au plus près les impressions que je recueille des objets et des gens qui m'entourent.
En tout cas, c'est un très joli livre. Je suis très contente de l'avoir présenté chez Allegre FM et à nos auditeurs. Et j'ai une dernière question à poser à Allons Tranquille, Monsieur Barral. Quels sont vos projets?
Je vais continuer à écrire mes propres histoires, mais comme ça me prend du temps, je vais faire un livre où je ne serai que dessinateur, avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Juncker. Voilà, je ne peux pour l'instant pas vraiment parler du sujet, parce que c'est il y a toujours un moment où on a envie de garder ça pour soi, mais ça parlera d'histoire, et ça sera plus humoristique peut-être quand même que l'un tranquille Monsieur Pessoa.
Il y a un peu d'humour.
Oui, il y a de l'humour. On est sur un fil entre l'humour, la nostalgie. Ce qu'était Pessoa. Pessoa avait de l'humour.
Bien sûr, je suis d'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour d'être venu ici chez nous. Et chers éditeurs, n'hésitez pas à vous procurer le livre « L'intranquille Monsieur Pessoa ». Il est disponible dans toute librairie et aussi sur le site d'Argo, c'est une maison d'édition très réputée pour la bande dessinée. Avant de vous quitter, j'ai une petite suggestion culturelle, ou plutôt éducative, cette semaine. Comme vous le savez, il y a en France des modalités d'enseignement du portugais intégrées dans le cursus d'enseignement français officiel. Et c'est le cas de la Cité internationale Balzac, qui a une section de portugais inscrites dans leur cursus, il y a d'ailleurs d'autres sections internationales, et je voulais attirer votre attention à tous les parents qui sont intéressés par cette modalité d'enseignement et qui ont des enfants dans l'âge du collège, que les inscriptions dans les sections internationales du lycée Balzac se passeront à partir du 15 janvier, donc ça va être très très bientôt, et il y aura aussi le samedi 3 février, mais on aura le temps d'en parler, une journée de porte ouverte où vous pouvez en savoir plus, mais on en parlera à la discussion, à l'occasion. Je vous propose d'aller sur le site de la Cité Balzac et de vous procurer le site des représentants des parents et enseignants de la section internationale portugaise pour en savoir plus si vous avez envie. Avant de vous quitter, je voudrais aussi remercier les deux techniciens qui m'ont accompagné aujourd'hui, Armand Gury et Séphraïm Fahmy. Merci beaucoup à vous deux. Et je vous propose une dernière chanson, aussi avec un poème de Pessoa. Cette fois-ci, c'est Salvador Sobral, une étoile jeune de la musique portugaise, qui va nous proposer une version un peu jazzy du poème Presságio. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup de nous accompagner à Allegre FM 93.1. À très très bientôt.
Quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer quanto sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Para saber que estão a amar, para saber que estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se estou
poder contar o que não lhe ouso contar. Já não terei que falar porque lhe estou a falar. O amor quando se revela não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sinto. Fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar o que não lhe ouso contar, já não terei que falar porque lhe estou a falar. O amor quando se revela se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.